Bonjour à tous. De l'Aquarius aux cages grillagées américaines, secourir ou repousser, l'humanitaire doit faire face aujourd'hui aux réalités de la crise migratoire. Sommes-nous moins accueillants ou plus pragmatiques? Question qui sera posée à notre invité Ronny Broman à partir de 12h55. Mais d'abord, nous célébrons aujourd'hui l'été et la musique. Un jour, une fête, oui, et après. Comment rendre la musique plus accessible et plus démocratique? De Sistema au Venezuela à Demos en France, l'éducation musicale s'ouvre à ceux qui ne sont pas nés avec une flûte en argent dans la bouche. On en parle aujourd'hui avec le critique musical Vincent Agrèche, auteur de Un orchestre pour sauver le monde chez Stock, et la chef Zaya Ziwani, fondatrice de l'orchestre symphonique Divertimento et 10 ans plus tard de l'académie éponyme. Elle sera après-demain avec des jeunes de Demos sur la scène de la Philharmonie. Elle est tout de suite notre invitée à écouter jusqu'à 12h30 sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Bonjour à tous les deux. Bonjour Vincent Agrèche.
Bonjour Olivia.
On commence par les hommes ici. Bonjour Zaya Ziwani.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Figure de la scène culturelle au Venezuela, José Antonio Abreu, l'homme qui a fondé Sistema en 75 et décédé en mars dernier. Vous lui adressez d'ailleurs une lettre posthume dans votre ouvrage, Vincent Agrèche, Un orchestre pour sauver le monde qui vient de paraître chez Stock. Quelle philosophie l'a guidé tout au long de sa vie, cet homme?
José Antonio Abreu, c'était à la fois un économiste et homme d'État, il a été plusieurs fois ministre au Venezuela, et un musicien, parfois les deux peuvent aller ensemble, avec une formation supérieure de pianiste et de chef d'orchestre, qui, dans les années 70, au moment où le Venezuela était un des pays avec les taux de croissance les plus importants au monde, du fait de ses richesses pétrolières, a décidé de réunir ses deux passions, et de monter un très grand projet d'inclusion des jeunes souvent issus de milieux défavorisés par la pratique musicale et la pratique de l'orchestre en particulier, et qui s'est dévoué pendant les plus de 40 années qui ont suivi au développement de ce projet, qui est devenu quelque chose d'énorme au Venezuela, puisque selon l'organisation, il compterait aujourd'hui près d'un million d'élèves. Après, les chiffres restent difficiles à vérifier, puisque le Venezuela n'est plus aujourd'hui le pays démocratique et en croissance qu'il était il y a 4 décennies.
Vous en entendez parler quand de ce projet, vous, Zaya Ziwani, dans votre parcours, de cette possibilité qui est offerte par Sistema et qu'on va tenter de reproduire, d'adapter différemment, souvent aussi en France et partout dans le monde?
Oui, alors en effet, moi j'en ai entendu parler, mais un peu plus tardivement dans mon parcours. Moi, je me suis plutôt nourrie de ma propre histoire et de mon propre parcours, puisque j'ai grandi en Seine-Saint-Denis. Et donc, c'est vrai que j'avais, moi, à cœur de pouvoir, en tant qu'artiste, être présente sur les scènes, mais pas uniquement que les grandes scènes identifiées, mais de faire en sorte que la musique classique, ça puisse être aussi une culture populaire dans le sens beau du terme. Et c'est vrai que je comprenais pas toujours quand j'étais jeune pourquoi on devait aller à Paris et dans les grandes salle pour écouter de la musique classique. Et donc un des premiers choix que j'ai fait quand j'ai créé l'orchestre symphonique Divertimento, c'est d'apporter sa résidence principale donc en Seine-Saint-Denis à la ville de Stein. Et donc de commencer à travailler sur un certain nombre d'actions pour faire en sorte que les grandes œuvres de la musique symphonique, elles puissent être partagées par le public riche de toutes ces diversités sociales, culturelles, intergénérationnelles, et de travailler sur un certain nombre d'actions avec les acteurs de terrain, que ce soit les enseignants, les travailleurs sociaux, les artistes, bien sûr les élus locaux. Et voilà, et petit à petit, ces dynamiques, elles se sont mises en place maintenant il y a 20 ans à peu près. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'années, les projets qu'on mettait en place ponctuellement et surtout dans certains territoires, bah on a commencé à avoir de l'intérêt par d'autres collectivités pour pouvoir les développer en France, et puis aussi par la Cité de la Musique quand il y a eu la réflexion autour de la naissance du projet Demos. Et c'est comme ça que j'ai eu l'occasion de découvrir le projet Sistema. Mais c'est vrai que moi, de mon côté, c'est vraiment mon parcours personnel qui m'a aidé à savoir comment on pouvait aborder ces problématiques là au 21e siècle dans nos territoires en France, et de faire en sorte que la musique symphonique et la culture plus largement, elle puisse faire partie elle puisse être présente sur ces territoires-là, ce qui n'est pas forcément évident dans le cadre des politiques publiques, de la culture en France, sur un certain nombre de territoires.
Ça, c'est une fois qu'on y est, c'est-à-dire une fois que les enfants ont intégré éventuellement un orchestre comme celui-ci, on va pouvoir parler des innovations pédagogiques qui ont été mises en place et de l'enseignement. Vous dites-vous, pour vous, l'étincelle, c'est quand même que vous aviez des parents qui étaient mélomanes.
Oui.
Comment ça peut se passer? Qui peut se substituer aux familles pour donner envie aux enfants d'aller vers la musique?
politique, quand ce n'est pas le cas, que ce soit dans des milieux défavorisés, mais même dans des milieux de classe moyenne ou plus, et qu'il n'y a pas cette sensibilité à la musique. Quelle peut être la première porte ouverte ?
Moi, je pense qu'en fait, c'est une responsabilité collective que l'on doit avoir et que ça doit plus être un sujet qui doit être abordé uniquement par l'éducation nationale ou uniquement par le monde de la culture. C'est vrai que moi, j'ai eu la chance de pouvoir vivre ce lien avec la musique, cette curiosité que mes parents m'ont transmise dans le cadre familial. Et donc, je me suis dit, quand à un moment donné, j'ai souhaité être chef d'orchestre, de savoir comment je pouvais être ce chef d'orchestre au XXIe siècle et à mon tour, être présente dans le parcours de certains jeunes. Et je me rendais compte qu'en fait, nous, les artistes tout seuls, on ne pouvait pas faire les choses et que certainement les élus et les politiques non plus. Et donc, en fait, que c'était vraiment une responsabilité qu'on devait avoir tous ensemble et qu'on devait être présent. Alors, à la fois, les premiers éducateurs des enfants, c'est évidemment les parents, mais qu'à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'éducation nationale et aussi des artistes, on devait prendre cette responsabilité et la travailler ensemble. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, les résidences que nous portons avec l'Orchestre Divertimento sur les territoires, autour de la table, il y a des enseignants, il y a des travailleurs sociaux, il y a des artistes, il y a des élus, il y a des personnes du monde économique, parce que je pense que maintenant, pour qu'on s'approprie que la culture vive sur ces territoires-là, c'est vraiment une responsabilité collective et on doit faire ça ensemble. Alors, c'est pas forcément toujours simple à faire parce qu'on a chacun nos propres façons de travailler et puis des habitudes qui se sont fortement ancrées ces derniers temps, mais c'est vraiment la force collective, comme dans un orchestre, qui fait qu'on arrive à faire les projets ensemble. Et donc, à mon tour, je trouve que c'est important en tant qu'artiste d'être présente aussi dans le parcours de certains.
Et même,
la découverte.
Dans le rapport que vous aurez avec ces jeunes, ces enfants, on imagine qu'il y a des moments extrêmement enthousiasmants et d'autres moments extrêmement décourageants, non ?
Ah bah toujours. Après, c'est vrai que c'est aussi riche dans un sens que dans l'autre. Je prends autant de plaisir à diriger une belle symphonie, dans un concert que de travailler avec eux. Après, c'est vrai que ça reste des enfants, ça reste des humains. Il y a des moments de grande satisfaction, puis il y a des moments aussi où c'est un travail de très longue haleine et c'est ça où c'est qui est pas forcément toujours facile à appréhender et à comprendre parce que parfois on est dans une société qui veut des résultats très rapides et parfois on cite en exemple par exemple El Sistema et on peut parce que c'est un bel exemple, mais il faut pas oublier que c'est un système qui s'est construit sur de nombreuses et de nombreuses années sur une très grande échelle et qu'il nous faut aussi du temps, nous en France, parce que cette dimension populaire de faire en sorte que la culture vive sur les territoires urbains, milieux ruraux, et on parle même pas des outre-mer, c'est que c'est que récemment qu'on vraiment s'y penche aussi grandement que ce qu'on le fait maintenant. Donc oui, il y a des beaux moments de satisfaction, il y a des moments où c'est parfois décourageant parce qu'on n'a pas forcément toujours les moyens nécessaires pour remettre en œuvre ces projets. Et j'espère que que tous les acteurs du monde de la musique vont un peu plus s'investir pour faire en sorte qu'on fasse plus de différence entre une ville de Seine-Saint-Denis ou de banlieue et des grandes salles de concert et qu'on y mettra autant de moyens. Et pour l'instant, les inégalités des territoires, on peut les ressentir dans plein de domaines. Et la culture, malheureusement, c'est encore un univers sur lequel ça s'exprime fortement encore.
Alors tous ne deviendront pas l'élu, tous ne deviendront pas le maestro. Dans cette lettre que vous adressez à Gustavo Dudamel, Vincent Agrège, vous lui écrivez: ce soir, 24 mars 2018, le maestro Abreu nous a quittés. Il m'est bien sûr impossible d'imaginer ce que tu ressens. Les Amérindiens disent qu'à certains d'entre nous, le grand esprit fait don d'un plus que père. Sans doute n'est-il pas besoin d'autres mots pour décrire ce qu'il fut et restera pour toi. C'est un élève brillant sorti des rangs justement de Sistema qui a popularisé le genre et internationalisé la méthode. Le violoniste Gustavo Dudamel, on l'écoute et je vous redonne la parole, Vincent Agrège.
Imagine, classical music is a very elitist art.
La musique classique est un art très élitiste. Mais le maestro José Antonio Abreu, le fondateur d'El Sistema, pensait qu'elle doit faire partie du développement de l'enfant, qu'elle doit être partie intégrante de la vie de l'enfant. Elle doit être aussi normale que le fait de manger, d'aller à l'école, ou même de respirer. Et quand on participe à l'orchestre, on a la chance de grandir avec d'autres enfants, en créant de la beauté, en ayant accès à cela. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est puissant, parce que c'est plus qu'un langage, que de dire quelque chose. Jouer la 5e symphonie de Beethoven, ses premières notes, personne ne nous disait comment faire, mais on recréait le moment. Et c'est ça, la puissance de la musique. C'est qu'on n'a besoin de rien dire. Il suffit de jouer et le message est là.
est là, c'est lui, hein, sur la couverture de votre livre, au milieu de l'orchestre. L'orchestre symphonique Simón Bolívar, La Noche de los Mayas, sous la direction de Gustavo Dudamel. C'est un parcours absolument exemplaire que le sien.
C'est le parcours évidemment emblématique du sistema vénézuélien. Ce jeune garçon né dans les classes populaires d'une ville de province au Venezuela, qui avait quand même la musique dans son bagage familial, parce que son père avait lui-même été l'un des étudiants de la première génération du sistema et qui est devenu le directeur musical du Philharmonique de Los Angeles, toujours en titre directeur musical du Symphonique Bolívar au Venezuela, bien qu'il ne se soit pas rendu au Venezuela depuis plus d'un an du fait de ses différends avec le pouvoir de Nicolas Maduro. Ce qu'il disait tout à l'heure répond aussi à la question que vous posiez. Comment fait-on en sorte de donner la musique aux enfants quand leur héritage familial ne la comporte pas? Un élément de réponse extrêmement important, c'est qu'il faut amener la musique très 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 tôt dans le parcours des enfants, si possible dès la maternelle ou le début du primaire. Et là, l'école, dans un pays comme la France, a un rôle déterminant à jouer. Il y a un très bon signe qui a été donné avec le plan choral à l'école qui se développe. Aujourd'hui, d'ici 2 ans, chaque établissement scolaire devrait comporter une chorale. Je dirais que c'est un bon début, mais permettre à chaque enfant très jeune de pratiquer le chant va lui apporter des bénéfices cognitifs, comportementaux énormes et beaucoup favoriser ensuite les projets d'éducation musicale qui passe par l'orchestre et qui s'adresse à des enfants un peu plus âgés.
Oui, voilà, ce plan choral, d'ailleurs, toutes les personnes qui passent autour de cette grande table, ils sont plutôt favorables. C'est un bon point de départ, hein, pour vous aussi.
Oui, alors moi je suis très convaincue en tant que chef d'orchestre que tous les projets à dimension collective sont très importants, et c'est vrai que dans un orchestre ou comme dans une chorale, mais particulièrement dans un orchestre, c'est vrai que les enfants sont déjà amenés à vivre des belles émotions, des belles sensations, et puis surtout on est tous là pour œuvrer dans une même direction et avoir aussi à trouver sa place dans un groupe. Et donc il y a énormément, en plus des vertus artistiques d'un projet d'orchestre ou de chorale, il y a toutes les vertus éducatives sur lesquelles on peut travailler, les savoir-être. Et donc c'est vraiment, je trouve, un élément, un outil très important sur lequel on peut accompagner les enfants à avoir des meilleures compétences par ailleurs, être en capacité d'apprentissage. Et parfois dans certains endroits où moi je suis amenée à diriger des projets d'orchestre avec des jeunes, les enseignants sont bluffés de voir comment les enfants étaient en capacité d'évoluer, d'avoir des capacités de concentration beaucoup plus grandes, de comprendre mieux ce qu'on attend d'eux aussi. Et c'est vrai que parfois un jeune, ce qu'on attend de lui pour mieux s'insérer dans la société ou dans l'univers professionnel, eh ben on attend exactement les mêmes qualités dans un orchestre symphonique ou dans une chorale. Et donc du coup c'est pour ça que c'est bien très tôt de pouvoir les amener à pouvoir vivre ces belles expériences
musicales. C'est ça, c'est une des forces de cette méthode en fait, c'est cette idée à la fois du chœur chorale comme de l'orchestre école. Plutôt que de favoriser des pratiques individuelles, on va favoriser des pratiques de groupe. Et vous écrivez, Vincent Ingrège, vous nous le rappelez, que c'est une sorte de métaphore de la société harmonieuse où chacun serait à l'écoute de l'autre. Il y a des avantages à faire travailler, des vertus vraiment essentielles à faire travailler ces enfants ensemble.
Bien sûr. Ensuite, il y a forcément un décalage entre l'idéal et la pratique, et un énorme projet comme le sistema vénézuélien a aussi généré beaucoup de dysfonctionnements, de compromissions avec le politique, et il m'a semblé important d'étudier aussi ces aspects critiques dans un projet qui a acquis une taille tellement, tellement phénoménale.
Alors ça, c'est très paradoxal, mais vous le racontez bien, c'est-à-dire qu'effectivement, le sistema vénézuélien a été rattrapé par la bipolarisation et la violence de la vie politique du pays, les soupçons de corruption aussi dans sa gestion, qui ont entaché l'image de José Antonio Abreu, son fondateur, ou plutôt le reste des équipes. Un peu tout le monde.
Oui, je pense.
Donc c'est le projet qui a été affaibli à travers
ça. Un petit peu tout le monde. En même temps, ce projet a souvent été jugé soit d'un point de vue incroyablement angélique, soit d'un point de vue extrêmement moralisateur. Tous les grands projets culturels doivent répondre à des questions pratiques et donc se confronter à des problématiques de gestion, de travail avec des équipes qui ne sont pas toujours celles qu'on souhaiterait. Et je ne dirais pas que je suis indulgent par rapport au dysfonctionnement du système, mais je les trouve inévitable quand un projet atteint une taille aussi démesurée, peut-être.
Et voilà, et je dis paradoxe parce que vous insistez beaucoup sur ce point. Partout dans le monde, il est compliqué de faire sans les pouvoirs publics si ces ensembles veulent grossir pour espérer atteindre une taille suffisante pour susciter le changement. Vous dites pas, il aurait fallu rester petit et continuer à agir à échelle locale avec des petits moyens. Vous dites au contraire qu'il faut grandir, voire grand, que c'est un risque à prendre aussi pour ces ensembles, pour pouvoir toucher un maximum de monde et finalement simplement pour pouvoir faire sens, Zahia Ziwani. Cette question d'échelle, elle est importante.
Oui, tout à fait. Et ça a été au cœur d'ailleurs du développement de l'Orchestre Symphonique Divertimento ces dernières années. Cette année, nous allons fêter là, sur la fin de l'année 2018 et sur l'année 2019 les 20 ans de l'Orchestre Symphonique Divertimento, les 10 ans de notre académie. Et au départ, c'est un projet qui s'est d'abord réalisé sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, Stein, l'agglomération pleine commune. Et puis petit à petit, on en a tiré aussi des enseignements dont on a pu s'appuyer, puis après aller s'implanter dans d'autres régions en France, parce que pour nous c'était important d'aller justement vivre d'autres aventures dans d'autres territoires, se confronter à d'autres problématiques et qui nous amènent à faire avancer encore mieux notre réflexion, à se réinterroger souvent. Et je pense que quand on travaille sur des enjeux aussi importants que celui-là, il faut avoir cette humilité de se dire que parfois on fait bien, parfois on fait pas bien, et de réinterroger sans cesse nos projets. Et je pense qu'on peut pas se permettre sur des enjeux comme ceux-là de s'installer dans une zone de confort, et c'est ça qui peut être parfois un peu déroutant. Et c'est vrai que ces dernières années, la dimension nationale que les projets de l'Orchestre Divertimento ont pu prendre, ça nous a apporté à la fois beaucoup de bénéfices dans notre travail, parfois en effet des risques qui n'étaient pas toujours simples à prendre, parce qu'on prend des décisions sans savoir si on aura les moyens de les réaliser, si en face il y a des territoires avec des publics qui ne sont pas toujours simples avec lesquels il faut travailler, mais je pense que la dimension d'échelle et de développement, elle est importante, mais qu'après faut bien maîtriser ce développement, et c'est là où parfois on peut être source de critiques, mais bon, moi je pars du principe qu'il faut faire les choses et après pouvoir justement se réinterroger, et nous on s'appuie vraiment sur cette date anniversaire de l'Orchestre Divertimento pour à la fois s'appuyer sur les belles initiatives qu'on a mis en place et puis impulser des nouvelles dynamiques aussi.
Alors en France, il y a plusieurs projets qui se sont inspirés du système vénézuélien sans pour autant vouloir être des ersatz de ce qui s'est fait là-bas, c'est-à-dire en développant ses propres méthodes, en se distinguant aussi du grand frère vénézuélien. La Philharmonie de Paris abrite Demos. Quel est le lien exactement entre Divertimento et Demos, Zahia Ziwani? Parce que vous, oui, dans deux jours notamment, vous dirigerez l'orchestre Demos de pleine commune.
Oui, tout à fait.
Alors ce sera aussi avec votre orchestre ou comment ça se passe?
En fait, l'orchestre Divertimento, nous on travaille sur ces projets justement de pratique collective. Donc parce que moi j'avais pu constater, alors que j'ai été aussi directrice d'un conservatoire pendant de nombreuses années à la ville de Stein, qu'en fait on ne devait pas avoir qu'une seule approche pédagogique pour l'apprentissage de la musique, et que c'est important peut-être auprès de certaines familles qui n'avaient pas forcément, qui avaient des origines sociales, culturelles différentes, et donc pas forcément un chemin aussi naturel que d'autres familles pour aller étudier la musique, apprendre un instrument, que d'aller au conservatoire, qui avait peut-être d'autres méthodes à étudier. Et donc on avait commencé à mettre en place des ateliers de pratique musicale collective à Stein, à Sevran, dans différentes villes de la Seine-Saint-Denis. Et à l'époque, j'ai eu l'occasion de Laurent Bell qui est venu me trouver pour me dire, bah, écoutez Zahia, on réfléchit à un grand projet qu'on souhaiterait mettre en place d'abord en région Île-de-France, et puis après qui pourrait aussi s'étendre nationalement. Vous avez une expertise, une expérience à la fois artistique et pédagogique sur ces territoires-là. Et nous aussi, on a notre expérience-là. Est-ce qu'on ne peut pas la confronter, essayer de penser ensemble à un projet? Donc, nous, on est avec l'Orchestre de Paris, les deux premiers orchestres partenaires de ce projet Demos. Et donc, du coup, on en fait encore partie. Les musiciens de l'Orchestre Divertimento y sont associés. Ce n'est pas uniquement le seul dispositif que auquel nous participons avec l'Orchestre Divertimento, parce qu'on est présent aussi sur d'autres territoires et que nous sommes un orchestre qui portons un projet très global de mettre vraiment sur un territoire les œuvres sous forme de concert, d'avoir des actions de sensibilisation et des actions de pratique. Donc ces actions de pratique, on les met en place avec Demos sur certains endroits, et puis parfois on participe à Demos dans certains territoires et on porte nos propres dispositifs ailleurs. Mais donc du coup Demos, on est partenaire et on est assez heureux de mettre justement en relation ce projet-là avec toute une dynamique qui fédère vraiment des publics à la famille et plus largement quartiers et habitants d'une même ville autour des concerts.
On vous écoute avec le Demos pleine commune sous votre direction.
Thank you.
Voilà, au pas de charge avec vous, Vincent Agrège, pour essayer de comprendre aussi les subtilités et les différences entre ces différents orchestres et ces différents groupes qui ont été constitués. Vous l'évoquez dans votre livre, partout dans le monde, et on le disait, Amérique du Sud, États-Unis, Kenya, Turquie, Corée du Sud, c'est des orchestres comme celui-ci se sont montés sur le modèle de Sistema. Beaucoup ont entrepris, dans les pas du fondateur Abreu, de défendre, ça c'est ce que vous écrivez, un idéal qui serait la condition même de notre humanité, l'art comme droit universel, la musique parmi les arts comme tuteur de l'esprit de nos enfants. Est-ce qu'il y a une spécificité française dans la manière d'aborder cette éducation à la musique aussi ?
Il faut qu'il y ait une spécificité liée à chacun des pays qui adaptent les principes du Sistema, parce que ce n'est pas une espèce de kit qu'on plaquerait d'un continent à l'autre. En France, je crois que le travail qu'a mené la Philharmonie avec Demos est assez exemplaire de ce que doit être le développement d'un projet pour atteindre une taille significative en tenant compte des caractéristiques du pays. Ça a généré, je pense d'ailleurs, beaucoup de questions au sein des équipes. Combien d'heures d'enseignement peut-on accorder aux enfants? Combien d'orchestres faut-il créer en même temps? Comment on conduit ce développement en équilibrant ces deux paramètres de l'intensité de l'enseignement et de la taille pour que le projet soit à la fois assez efficace et assez visible? Parce que bien évidemment, derrière, il y a des questions de financement et il est très très important de savoir où on place le curseur d'une manière à penser un développement au long terme. Aujourd'hui, Demos se trouve face à un pic de croissance puisque la ministre Françoise Nyssen a annoncé une augmentation très significative des moyens de l'État qui devrait amener à doubler le nombre d'orchestres qui passera de 35 à 70 mais qui en même temps va nécessiter que les équipes de Demos se trouvent des compléments de financement qui complètent les financements apportés par l'État du côté des collectivités territoriales et du côté des privés. Donc on assiste probablement au début d'un grand développement de ce projet, mais qui comporte aujourd'hui beaucoup d'inconnus.
Oui, dans cette période d'expansion, vous le dites aussi, vous le rappelez, on manque un peu d'études comparatives pour comprendre exactement des questions toutes simples. Déjà, combien d'heures par semaine pour ces enfants, un cycle de combien d'années, et puis au-delà de 7-8 heures, est-ce qu'il est difficile vraiment d'arriver à quelque chose s'ils n'ont pas d'instruments à la maison, comment pratiquer et faire quelque part, d'implanter cette pratique aussi dans leur vie quotidienne, des questions que vous devez également vous poser de votre côté. Là, on se disait, l'orchestre Demos qu'on a entendu, vous nous disiez, Zaya Ziwani, ils ont à peu près 9 ans, ces enfants. Qu'est-ce que vous leur dites comme mot très simple pour leur donner envie d'aller vers la musique? C'est-à-dire qu'en dehors de la technique que vous devez leur transmettre, cet amour de la musique, vous leur transmettez comment?
En fait, c'est un amour que je transmets de façon assez naturelle, c'est-à-dire que j'ai pas un comportement différent de quand je me présent devant un orchestre professionnel. Évidemment, ce ne sont pas les mêmes circonstances puisque ce sont des jeunes qui apprennent la musique, mais je pense qu'ils attendent aussi beaucoup de nous d'être exigeants avec eux. Et en fait, cet amour de la musique, je le transmets en essayant de faire partager ces belles émotions, mais surtout en essayant aussi de leur faire partager cette exigence parce que c'est aussi des enfants qui parfois évoluent dans des territoires avec des réalités qui sont compliquées, avec des images aussi de la part des médias parfois, de l'extérieur de ces territoires, voire même de l'intérieur, pas toujours très positive. Et donc, ils ont vraiment besoin, ils ont un déficit de confiance en eux. Et donc, ils ont besoin qu'on leur montre qu'on a confiance en eux. Et je pense que la meilleure façon, c'est de les associer à cette belle dynamique et d'être exigeant avec eux. Et donc, moi, je leur ai dit, la seule différence, c'est qu'ils ont plus de temps pour préparer leurs morceaux. Mais j'ai le même discours qu'avec un orchestre professionnel. Et simplement, quand je sors d'une répétition, je veux qu'ils aient compris qu'ils aient appris des choses, qu'ils aient compris ce que je leur ai demandé, et puis surtout qu'ils aient vécu des belles émotions. Alors c'est vrai que c'est pas toujours un exercice très facile, mais qui est en tout cas très très intéressant. Et donc, un des enseignements précieux que je retiens de ces belles expériences, c'est que ce sont des enfants qui ont énormément de potentiel et que parfois on peut les amener beaucoup plus loin encore que ce qu'on prévoit. Et donc, il faut simplement, leur faire confiance, quoi.
Quel est leur compositeur préféré en général? Ils sont
plutôt
Beethoven,
ils sont plutôt
Mozart,
assez surpris.
Ils sont plutôt Berlioz.
On est parfois un peu surpris parce que sur des différents styles de musique et en tout cas sur les 3 années où j'ai pu accompagner l'orchestre de pleine commune, pour moi c'est important qu'ils puissent aborder des répertoires et des époques différentes. Là cette année par exemple, dans 2 jours on va jouer à la fois un extrait d'une œuvre de Debussy, une création de la compositrice Graciane Finzi qui l'aura écrit spécifiquement pour pour eux, et je leur remercie d'ailleurs, une très belle œuvre qui s'appelle Musical Games, et il y a aussi un gospel. Et donc, ils sont autant investis à chanter le gospel qu'ils adorent la création contemporaine de Graciane, et ils adorent aussi jouer Debussy. Donc, on est parfois assez déroutés parce que ils n'ont pas d'idées reçues et ils vivent la musique de façon très authentique. Et c'est ça qui est bien, et je pense que c'est aussi un enseignement que l'on doit tirer par rapport aux politiques publiques qui sont mises en place pour la musique, c'est de ne pas décider à la place des enfants ou des familles et de dire que dans tel territoire, on doit valoriser les cultures urbaines plus que la musique symphonique. Il y a bien, dans tous les projets que j'ai faits avec les enfants, j'en ai jamais rencontré un qui m'a dit « Zaya, je ne suis pas intéressée par l'orchestre, par la musique, je ne souhaite pas ». Ce n'est pas vrai, ce sont des belles émotions qu'ils ont aussi eux envie de vivre, et c'est comme ça que j'essaie de leur transmettre cette envie, en tout cas d'être curieux et de découvrir d'autres musiques.
Les enfants ne font pas du tout cette frontière de répertoire.
Tout à fait.
Effectivement, ils ne perçoivent pas, c'est les adultes qui décident qu'il y a une fracture entre le classique et les répertoires du quotidien. Et au contraire, après, il faut sans doute établir une hiérarchie des valeurs musicales, ce qui est un sujet un petit peu plus compliqué. Mais au début, les enfants vont être réceptifs à toutes les musiques qu'on leur propose.
Je suis d'accord.
Bon. Et vous, votre compositeur favori, Vincent Agrèche?
Difficile, il y en a tellement.
C'est pas facile. On va juste faire un clin d'œil aux autres initiatives qui existent. Donc il y a du Demos, il y a du inspiré aussi donc de Sistema qu'on évoquait, El Camino à Pau, à l'Opéra de Paris, une initiative similaire qui a été lancée, et puis l'Académie musicale de Philippe Jarouski qu'on recevait récemment. Dans cette idée d'académie, lui aussi, il souhaite voir la musique classique comme un vecteur d'intégration sociale et professionnelle, et il sera le 30 juin à la scène musicale, concert final de l'Académie sous sa direction, donc bien entouré. Je rappelle les dates du concert que vous dirigerez, ce sera dans 2 jours à la Philharmonie de Paris, bien sûr dans la grande salle Pierre Boulez de la Philharmonie, Zaya Ziwani.
Si vous me permettez, avec l'Académie Divertimento, on fait un grand concert aux Archives Nationales ce soir à 20h, donc
pour
la fête de la musique aussi, donc voilà, avec d'autres jeunes.
Merci beaucoup, toutes les dates et références sont à retrouver sur la page de France, de La Grande Table sur franceculture.fr. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.